Bonsoir, bienvenue au Canu Info du vendredi sur le 102.2. Alors aujourd'hui, on va aborder comme chaque jour l'actualité en trois niveaux, local, national et international. Concernant le local, nous sommes aujourd'hui riches en reportages puisque nous avons quatre reportages. Le premier sur l'ACL, un groupe de sport de combat libre, un reportage qui va venir donc dans un instant. On parlera ensuite des manifs kurdes, de la manif kurde sur Kobané, manifestation en soutien aux Kurdes de Kobané qui luttent contre Daesh de vendredi, un petit reportage également. On parlera également de la mobilisation des vacataires à l'université de Lyon, là aussi un reportage d'un quart d'heure à peu près. Et enfin, un dernier reportage sur la manif anti-répression qui a eu lieu hier à la Guillotière, sur la place du Pont. Voilà, donc quatre reportages. Ensuite, on changera d'échelon, on ira à l'échelon national. Et on parlera du blocage organisé par des lycéens parisiens suite aux violences policières testées. Et on parlera, enfin, on interviewera même une spécialiste d'un sujet qui donnera peut-être lieu à une ZAD en devenir, le projet de Center Park en Isère. Voilà, enfin, on terminera, si on a le temps, après toute cette actualité, par les questions d'un massacre qui a eu lieu au Mexique en septembre. Et le maire et sa femme qui sont à l'origine de ce massacre ont été arrêtés il y a 2 jours ou 3 jours. On reparlera donc de l'actualité de tout ceci. On terminera sur l'agenda. Voilà, donc premier reportage tout de suite sur l'ACL. Et je vous laisse libre de découvrir ce qu'est l'ACL.
Force de combat activée, moi durtif du rap pisté. Après le salut, y'a pas de pitié. Là j'y vais, Hajime. Tu commences à pâlir, trottoir Paris en guise de tatami. Des terres comme tous les gars de la ville, appelle tout le monde si t'as d'amis. Dans ton cerveau on s'invite, loin des sentiers qu'on t'indique. Par souci de discrétion, j'ai troqué du doggy contre un jean. Kimono des temps modernes, un flow hors pair en or massif. Les traîtres sont la cible, j'ai vu les flèches et les coups de Doc Martens. Fin du combat, ma pierre ton balle, non.
Une nouvelle rubrique de ce Canu Info du vendredi. En dehors des événements ponctuels, on est parti se balader dans les belles activités du milieu militant de Lyon. Alors pour vous, auditeurs de Radio Canu de tout âge, qui vous ennuyez les mardis et mercredis soirs faute d'activités palpitantes, notre reporter est parti cette semaine, au risque de sa vie, rencontrer l'amicale du combat libre. Vous pensez que les sports de combat, c'est... Ou alors peut-être... C'est pas que ça en fait. C'est aussi notre reporter qui s'est laminé par un gars de 5 ans.
Non, Vincent, fais bien, Jérémy.
Ouah, tu vas me faire une prise. Faut que je mette comment ?
Debout.
Debout ? Comme ça, peut-être, on s'en a la main.
Mais après, il faut bien que tu te mettes debout.
Bon bref, mais c'est aussi surtout l'amicale du combat libre, une pratique respectueuse de chacun basée sur l'autogestion. On va commencer par voir ce qu'il fait avec les enfants et ensuite on ira rencontrer les plus grands.
Vous m'expliquez ce que vous venez de faire là?
Oui, on vient de faire des combats.
Des combats de quoi?
En fait, on vient des combats de jujitsu.
Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Tu peux m'expliquer, Luna, ce que c'est le jujitsu?
En fait, le jujitsu, c'est un sport de souplesse et de technique. C'est un sport de défense surtout.
De défense, ça veut dire quoi que c'est de défense?
Pour se défendre. Mmh. Et aussi pour se protéger.
Pour se protéger. Mmh. C'est quoi la différence avec la bagarre?
C'est que on se fait mal. Techniques. Non. C'est que dans la bagarre on se donne des coups de pied alors que dans le jujitsu on le fait pas.
Et aussi on fait des techniques dans le jujitsu alors que dans la bagarre on fait comme ça.
Et on se fait pas mal.
Et vous venez souvent du coup?
Tous les mardis.
Et c'est quoi vos habits?
Des kimonos blancs.
Ça sert à quoi?
Et on est à la surprise. Après, la il va nous acheter des ceintures noires. Ouais. C'est pour mieux tenir.
C'est pour mieux tenir.
Pour rattraper.
Vous voulez rajouter, vous avez quel âge?
Moi, 9 ans, 5 ans. CM1.
9 ans, 5 et 6 ans, c'est ça?
Essaye de faire la... Technique où on doit, où il y a quelqu'un qui est au sol, il met ses pieds sur les hanches de l'autre, après il les prend par les manches du kimono et après il essaye de le tenir en équilibre sur ses pieds en le tenant toujours.
Il y a la technique du croche-patte, en fait c'est que on doit prendre l'adversaire par les manches, on doit mettre ses deux pieds sur la ligne où il y a son pied et on doit crocheter.
Aussi, il y a la technique la chute du sacrifice. En fait, il y a quelqu'un qui est devant. Après, l'autre, il le prend par un bras. Il va derrière lui. Et après, il lui fait un croche-patte en arrière.
Et l'autre, du coup, il tombe en arrière?
Oui.
Bah, aussi, à la défense de là où on tombe, après, on doit taper par terre et après on doit se relever.
Ah, ça c'est quand tu tombes pour pas te faire mal, c'est ça? Pour pas se faire mal au monde.
Si après on pousse trop fort l'autre, c'est sûr qu'on va se faire mal.
C'est pour faire attention aux autres.
C'est pour ça qu'on met des tapis.
Et ça va passer à la radio chez les gens.
Ouais.
Bah, ce que j'aime bien, c'est que on s'amuse en même temps.
J'aime bien quand on joue dans la cour et qu'on joue à tous les jeux que j'aime bien.
Bah moi en fait et j'aime bien au début aussi quand on joue dans les tapis et aussi quand on fait les combats et les tournois à la fin.
Qu'est-ce que t'aimes bien toi?
Moi aussi pareil.
Et bien
pareil.
Moi je viens ici pour la technique, le combat et la défense.
Allez, et le mot de la fin?
Bah, en fait, j'aime bien cet endroit et c'est très très beau.
Et on est où d'ailleurs?
Jujutsu.com.
À l'atelier des canulars.
Jujutsu.com.
C'est
Jujutsu.com. Au contact.
Et voilà pour les enfants, ça c'est le mardi à 18h, et notre reporter, prenant son courage à deux gants de boxe, a continué par l'atelier des adultes le mardi et le mercredi à 19h. Il nous livre depuis le terrible état de bien-être où il se trouve après cette pratique, une interview d'une partie du collectif.
Alors la CL, l'amicale du combat libre, voilà.
Alors, en fait on veut une pratique des sports de combat, mais qu'il soit pas un truc de bourrin, et chacun et chacune puisse s'amuser et avoir une pratique sportive sans être là pour devenir les guerriers de l'univers.
Alors du coup c'est tous les mardis à 19h à l'atelier des canulars, et puis du coup il y a pas mal de gens qui viennent, de certains qui restent, d'autres qui restent pas, et à chaque fois on apprend des nouvelles techniques, des clés de bras, des clés de pied.
Du coup le mardi à 19h c'est le jujitsu. C'est pour ça qu'on parle de clés. Et le mercredi à 19h, c'est les techniques de percussion pied-point, de boxe pied-point. Et c'est basé sur le même principe. Le but, c'est pas de faire de la bagarre méchante de gros bourrins, mais plus de s'amuser entre copains et d'apprendre des techniques.
Alors, entre copains, je sais pas. Parce que c'est un club. C'est un club, voilà. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas, On a des gens du quartier qui viennent, des voisins, voilà, des jeunes, des plus vieux.
Des gens qui viennent de loin.
Des gens qui viennent de plus loin. Donc c'est comme un club, mais il n'y a pas l'esprit, pas d'esprit de compétition comme on va trouver dans un, peut-être dans des clubs plus sportifs affiliés à des fédérations, etc.
Et puis aussi dans le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas les trucs de les phrases qu'on doit dire, les rituels un petit peu d'arts martiaux habituels qui peuvent faire un peu fuir par moment.
Ah, dans le jiu-jitsu brésilien, il y en a, mais c'est juste nous, on les fait pas.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Donc disons qu'on a une pratique assez libre et assez ouverte des arts martiaux en général et du jiu-jitsu brésilien en particulier, qui lui-même était une pratique qui est moins codifiée, on va dire, que la plupart des arts martiaux traditionnels.
Donc, du coup, c'est mixte, c'est à prix libre, et une adhésion à l'année, mais après, on vient comme on veut au maximum.
Le principe, oui, c'est qu'il y a différents... C'est ouvert à tout le monde, donc il y a différents niveaux. C'est aussi bien pour les débutants que pour des gens qui viennent depuis plusieurs années et qui ont un niveau un petit peu confirmé. C'est mixte... C'est mixte dans plusieurs sens du terme, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un club qui se veut ouvert à tous et à toutes, à tout âge. Voire aussi pour les enfants, puisqu'on a une séance pour les enfants... à 18h, et effectivement chacun peut venir, en fait, qu'il soit sportif, pas sportif, qu'il ait un niveau technique ou pas de niveau technique, filles, garçons, effectivement, c'est on a une pratique qui est mixte des arts martiaux. Je pense que c'est un peu quelque chose qui nous lie aussi tous, enfin, tous les gens qui viennent ici, ce qu'ils y retrouvent, c'est ça, c'est que chacun peut donner ce qu'il veut au groupe et venir y prendre ce qu'il veut.
Je pense qu'on peut dire qu'elle a une pratique assez ludique aussi. Assez fun.
On fait des échauffements.
Moi je trouve ça fun, moi. Non, après, le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un truc qui est intéressant parce qu'il est. C'est un moyen de contrôler un adversaire sans lui faire mal et sans lui laisser de séquelles à vie, mais aussi dans les débuts.
À toi.
Aussi sur le jiu-jitsu brésilien qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut aller d'une pratique de la self-défense, donc avoir des techniques pour l'autodéfense dans la rue, des choses comme ça, des techniques sportives, donc le côté jiu-jitsu brésilien sportif, avec kimono ou sans kimono, donc qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle le grappling, donc c'est plutôt ce qu'on pratique là aujourd'hui, c'est plutôt... le grappling, donc sans kimono, et qui peut aller donc jusque au combat libre ou au MMA. Le côté self-défense, c'est ce qui est très intéressant dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que c'est aussi quelque chose qui est tout à fait accessible à tout le monde, sans entraînement sportif. L'idée de base du jiu-jitsu brésilien, c'est ça, c'est que ça peut être appliqué en self-défense sans avoir un niveau sportif de fou. On n'est pas dans les vidéos de self-défense qu'on voit de je sais pas quel art martiaux où les personnes font des coups de pied retournés en sautant à 2 mètres du sol, etc. Il y a un côté très utilitaire dans le jiu-jitsu brésilien.
Force de combat activée, moi durtif du rapisté, après le salut, y'a pas de pitié, là j'y vais, Hajime. Tu commences à pâlir, trottoir Paris, en guise de tatami, des terres comme tous les gars de la ville, appelle tout le monde si t'as de la nid. Dans ton cerveau on s'invite, loin des sentiers qu'on t'indique. Par souci de discrétion, j'ai troqué du doggy contre un jean. Kimono des temps modernes, un flow hors pair en normatif, les traîtres sont la cible.
Et voilà, c'était un petit reportage à l'amicale du combat libre. Pour ceux qui s'inquiètent, notre reporter va très très bien, il va même mieux qu'avant le reportage, selon ses dires. Et sinon, les infos pratiques pour le coup. Alors, tout ça, ça se passe à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, le métro le plus proche, c'est le métro de Paris-Gambetta. Du coup, la pratique, elle est à prix libre. Pour les enfants, ils peuvent venir les mardis à 18h. Pour les plus grands, alors le jiu-jitsu brésilien, il se pratique là-bas le mardi à 19h. Et sinon, il y a de la boxe des poings le mercredi à 19h. Et il y a aussi des stages ponctuellement qui sont organisés, donc ça vous verrez sur Rebellion où nous on essaiera de vous en parler. Et voilà, du coup c'était l'ACL qui fait une pratique des arts martiaux autogérés et amicales. Et tout ça pour dire que les âmes sensibles ne doivent surtout pas s'abstenir et il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour et essayer. Et sinon, pour annoncer le prochain reportage, notre grand reporter va encore prendre des risques inconsidérés puisqu'il ira s'initier dans le milieu des chorales. En attendant, portez-vous bien.
Même si t'es pas net, j'fais de la magie, même si t'es pas l'aise. Appelle-moi Miyagi, j'écrase les mouches avec des baguettes. Tatami en béton, inspecteur en guise d'arbitre. Mon sang asiatique est toujours froid dans la bataille. J'fais confiance à ma plume, quand les armes remplissent la ville. Pour guérir mes plaies, OCP en cataplasme.
On reste maintenant dans l'actu locale avec un petit reportage sur la manifestation de samedi dernier en soutien aux Kurdes de Kobané.
C'est pas seulement les Kurdes, mais bien un système politique va se proclamer basé sur un système pluraliste, égalitaire, humaniste, démocratique et féministe. C'est ce système-là qui est visé par le Daesh, par les Al-Babas, soutenu par la Turquie. Hier, le président turc Recep Erdogan était présent à Paris. On a bien reçu son message, soi-disant qu'aujourd'hui à Kobané, il ne reste plus de civils, soi-disant qu'il n'y a que une centaine de combattants. Et juste pour cela, il voudrait... Il voudrait qu'on intervienne militairement à Kobané, mais pas dans le sens de sauver Kobané, mais dans le sens de perpétrer un massacre. Et face à cela, la France reste muette. Mais plus que cela, au nom de son gouvernement, soutient le fait que la Turquie puisse ouvrir une zone de tampon, une zone qui permettrait à la Turquie de rentrer à Kobané dans le but d'anéantir cette lutte, cette résistance. Mais nous ne laisserons pas faire tant qu'il y a un espoir que la ville de Kobané ne tombe pas. Nous continuerons nos actions. Si aujourd'hui, si aujourd'hui Kobané n'est pas tombé, c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes les forces progressistes du monde qui ont résisté, qui ont montré leur solidarité. Car nous savons tous qu'aujourd'hui, ce qui est visé à Kobané, qu'on vit une troisième guerre mondiale, c'est toutes nos aspirations progressistes. Nous ne laisserons pas faire. Kobané ne tombera pas. Kobané vivra. Kobané survivra. Il a plus que la qualité.
Je veux aujourd'hui m'adresser à mon gouvernement.
Parce que Daesh n'accepte pas que les gens font l'amour différemment.
Parce que Daesh n'accepte pas que les gens pensent différemment. Parce que Daesh pense que la femme est créée pour reproduire ou satisfaire le plaisir de l'autre. L'obscurantisme n'est pas seulement un danger contre l'existence du peuple kurde, qui est laïque dans sa majorité, mais c'est aussi un danger pour la démocratie et le pluralisme, qui sont le fondement du monde libre. C'est pour la première fois dans l'histoire que les intérêts du monde libre et ceux du peuple kurde se convergent. Cette convergence a amené à former une coalition internationale contre Daesh et par conséquent, on peut dire que les Kurdes défendent le monde libre et le monde libre défend les Kurdes.
Et voilà pour le reportage sur la manif qui a eu lieu samedi dernier, du coup, dans le centre-ville de la Presqu'île et qui a encore réuni pas mal de personnes en soutien à Kobané et aux Kurdes qui sont là-bas. Et alors là, on change et on revient sur du local, beaucoup plus local, puisqu'on va aller à l'université Lyon 2 où des vacataires enseignants-chercheurs et des vacataires du centre d'inscription, mais aussi des services numériques se mobilisent pour avoir des meilleures conditions de travail.
Depuis septembre, les vacataires de l'université Lyon 2 enseignent sans contrat de travail, comme chaque année. Depuis septembre, s'est monté un comité de mobilisation pour réclamer des meilleures conditions de travail. Retour sur cette mobilisation au sein de l'université Lyon 2.
Bah alors, moi je suis vacataire à Lyon 2 depuis quelques mois. Ça fait trois mois que je travaille sans contrat. Donc au noir, donc ça pose toute une question d'assurance, c'est-à-dire que si on se blesse en cours, c'est de notre responsabilité individuelle. D'ailleurs, on a fait présent ça à la DRH il y a environ un mois et le monsieur nous a répondu qu'on n'était pas obligé d'aller en cours. Donc ça, je trouve ça vraiment génial parce que voilà, c'est presque nous inciter à ne pas travailler. Donc voilà, on décide quand même de travailler parce qu'on est particulièrement courageux. Et voilà, j'ai pas encore signé de contrat. Le contrat, il sera possible de le signer dans un mois environ. Donc on sera payé dans 3-4 mois. Et donc ça nous pose un gros problème pour le chômage parce que je suis censée recevoir une allocation de chômage. Mais elle est bloquée jusqu'à quand je serai pas payée pour les heures de vacations que je vais faire. Donc ça veut dire pour moi 6 mois sans salaire. Voilà, donc ça pose un gros problème.
Parce qu'il y a beaucoup de vacataires qui assurent les cours à Lyon 2?
Ah oui, oui. Alors, moi, ma filière, c'est sciences politiques. Et, alors, je connais pas les pourcentages, mais je sais qu'en licence 1 et licence 2, tous les TD sont assurés, soit par de moniteurs, enfin, presque la totalité des TD sont assurés par des moniteurs ou des vacataires. Donc, ça veut dire que quand même un gros pourcentage de la licence actuelle est assuré par des gens qui n'ont pas de contrat actuellement.
Et du coup, c'est quoi les revendications là du mouvement des vacataires en colère depuis septembre?
C'est si au moins, c'est des revendications basiques hein, de droit du travail. Donc, on veut un contrat, on veut aussi une mensualisation du salaire. Ça serait bien de l'avoir parce que voilà, on perçoit notre salaire bien après la fin de notre service. Et ensuite, bon, moi, je tiens vraiment à une revendication en particulier, c'est qu'on veut pas une normalisation du statut de vacataire, mais on voudrait quand même une augmentation des postes ordinaires, statutaires. Donc là, on assiste à une diminution des postes ATER, des postes des contrats de taureaux et des postes de maître de conf. Il y en a peu également. Donc en fait, ça pose aussi un gros problème à la fois pour nous, pour les doctorants ou pour les jeunes docteurs, mais ça pose un gros problème aussi pour la qualité de l'enseignement parce qu'on est sous-payé pour faire un travail que l'on fait pour des questions d'expérience et de CV. On se mobilise depuis septembre. Pour le moment, on a essayé de rencontrer le directeur actuel de la DRH. Alors, il nous a reçus sur le palier une première fois parce que, en fait, il voulait pas recevoir dans son bureau des personnes qui n'avaient pas signé de contrat encore. Donc, c'était le cas de 100% des personnes présentes à la réunion, alors qu'on était quand même 50, hein, une cinquantaine. Donc, il nous a reçus sur le palier. Bah, il était
bien disponible. Il a passé une heure avec nous sur le palier. Et puis, il nous avait donné rendez-vous une semaine après. Mais une semaine après, il s'est pas présenté. Donc, voilà. Dans le mouvement, il y a beaucoup de disciplines qui sont représentées. Il y a histoire, sciences politiques. Bon, toute la faculté d'anthropologie, sociologie, sciences politiques est très bien représentée. Mais il y a également des scientifiques. Et d'ailleurs, il y a pas mal de mobilisations qui émergent actuellement en France, un peu partout. Et on est à lien avec Paris 1, avec Toulouse, avec d'autres universités en France, pour essayer de porter les revendications des vacataires et des doctorants plus en général, parce que ça pose un problème d'insertion professionnelle des doctorants très important après la thèse. Voilà, donc nous, on essaye vraiment d'être solidaires entre nous. Il y a aussi des vacataires du centre d'inscription qui se sont mobilisés également, parce que aussi la lenteur des procédures d'inscription, ça fait partie de notre problème en tant que vacataire. Et de leurs problèmes à eux, parce que ils ont eu des réductions de salaire très importantes, il y a eu des réductions de postes, et c'est pas de leur faute, c'est qu'il y a eu une coupure des effectifs très importante.
Le centre d'inscription.
Ok.
Pourquoi on a rallié le mouvement, en gros. Voilà, pourquoi on s'est mobilisé.
Dans le cadre de nos fonctions, ça se passe bien. C'est vrai que c'est les contrats, forcément, les contrats, les heures sup qui sont pas payées comme des heures sup. Ils peuvent nous les enlever un peu, enfin, les terminer un peu n'importe comment, les renouveler et nous prévenir pratiquement la veille pour le lendemain, enfin, ou la semaine d'avant. C'est vraiment assez bâtard. Par exemple, là, on n'avait pas été payé depuis la fin août. On avait eu un bout de paye en fin août, et après, on n'a pas eu de paye jusqu'à fin octobre.
Alors on nous avait promis une paye fin août minimum en attendant le reste les heures faites, mais ça n'a pas été fait. On a reçu que 3 premières semaines de notre travail effectué à la fin octobre.
Ça dépend
de la période là où on a commencé, mais bon. Voilà.
On est payé qu'une quinzaine de jours, un mois et un mois après, quoi. Donc on n'a même pas la totalité du mois pour le mois suivant. Donc, ce qui fait que là, on a été payé début septembre, fin octobre.
Et si on ne compte pas nos heures, c'est possible qu'on ne nous les paye pas.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais. Il vaut mieux avoir un petit calepin pour noter ses heures, parce qu'on ne sait jamais, des fois, ils se trompent.
C'est dommage en fait qu'une institution comme la fac fasse pas plus attention au niveau des vacataires qui quand même œuvrent pour la fac aussi, au même titre des titulaires, et qu'on soit rétrogradé comme ça, c'est un peu dommage.
Certains sont étudiants, d'autres non. Ceux qui sont étudiants sont pas forcément privilégiés parce qu'ils ont des cours. Donc quand on n'est pas assez disponible, c'est compliqué pour qu'on ait des contrats qui sont prolongés. Bien qu'on a la flexibilité sur les horaires, c'est très avantageux. Mais c'est difficile, de pas avoir de sous pendant deux mois. On a des loyers à payer, on a des vies à vivre, et c'est très, très compliqué.
C'est vrai que les titulaires se mettent à la place aussi des vacataires. Essayer peut-être d'avoir un contrat vacataire pour voir qu'est-ce que ça fait, et qui ont des familles, parce que c'est parce qu'on est jeune, qu'on n'a pas de famille, qu'on n'a pas d'obligations, et donc voilà, c'est juste, après, je veux pas dire qu'ils ont été, ça avait été honnête, parce que moi, quand ils m'ont eu en entretien, ils m'ont dit, la paye, ce sera pas de suite.
On était avertis.
Mais c'est vrai que quand ils m'ont dit pas de suite, je m'attendais pas à pas de suite dans deux mois, quoi. Sinon, j'aurais franchement réfléchi à deux fois, quoi. Qu'ils le disent clairement et sincèrement que vous serez payé deux mois après, entre trois et six semaines. C'est pas la même chose. Donc qu'il soit clair et qu'il soit franc avec les vacataires. Que le début à la fin. Quoi.
Le centre d'inscription, il tombe qu'avec des vacataires en fait.
Oui, exactement.
On a quatre titulaires.
Ouais, voilà.
1, 2, 3, 5.
5 titulaires et 30 vacataires.
Cette année, 30 vacataires. Moins que l'année dernière.
Voilà. Ouais, ce qu'il disait sur les restrictions.
De charge de travail avec beaucoup moins de vacataires et un plus petit nombre d'heures aussi, je pense, sur les contrats. Donc ça fait que c'est. Il faut essayer de se débrouiller pour que le service tourne et qu'on soit en forme. Les attestations de Pôle emploi, il faut aller les réclamer plusieurs fois pour pouvoir les avoir, et c'est assez compliqué.
Il y a l'histoire aussi de nombre d'heures de cotisation. Les CDD, ils ont que 400 heures pour avoir le chômage, je crois. Et nous, on doit faire 610 ou un truc comme ça. Ouais.
Et avec les fiches de paie qui sont décalées, c'est pas décalé pour tout. Enfin, c'est tout bête. Hein. Moi, je sais que, par exemple, pour la CAF, eh ben, on me demande des fiches de paie que j'ai pas encore. Donc, je peux pas forcément les donner et je peux pas avoir ma situation prise en compte comme il faudrait. Donc, c'est assez compliqué. Au changement d'étudiant à salarié à la Sécu, on n'a pas nos fiches de paie de juillet et août. Enfin, moi, j'ai commencé en août, donc j'ai pas mes fiches de paie. Mais je ne peux pas aller avec ma fiche de paie pour prétendre au changement de statut. Donc, j'attends. Non, j'ai jusqu'à décembre, mais voilà. Si je veux le faire vite.
Faut être patient, en fait.
C'est quoi les qualités du CDI? La patience.
Non, des vacataires, en général, hein, c'est la patience. Ouais.
Un mauvais salaire, un mauvais travail.
Le mercredi 5 novembre, avant-hier, a eu lieu un rassemblement devant la présidence.
Une semaine, puisque le président n'a pas été occupé en réunion, manifestement. Donc, voilà, il n'a pas jugé bon ni opportun de nous recevoir maintenant. Ça a permis d'avancer sur un certain nombre de points qui avaient été les revendications des enseignants vacataires. À savoir qu'on a eu la promesse, même si en fait on n'a pas encore vérifié que la promesse a été tenue, mais manifestement ça a été envoyé aux différentes composantes, qu'à partir de maintenant, les vacataires pourraient commencer à enseigner avec un contrat de travail dès le début, que la procédure va être facilitée et que au niveau du budget, on va évaluer les possibilités d'exonérer les vacataires qui donnent cours de frais d'inscription à la fac. Bon, là-dessus, on a un petit peu avancé. Donc, à mon avis, c'est le point positif de l'entrevue. C'est qu'on sait qu'on peut se présenter demain à l'Assemblée Générale. On sait qu'on peut écrire à d'autres vacataires en France, dans d'autres facs à Lyon, pour leur dire, voilà, si on se mobilise et si on fout un peu la pression sur la DRH, on peut obtenir des trucs pour que les contrats soient un peu moins précaires. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est complètement en dessous de tout ce qu'on demande. Les tâches annexes pour les enseignants, elles sont toujours pas précisées. Manifestement, on n'opéra ni les surveillances ni les corrections pour ce semestre-là. En plus, il a quand même laissé entendre que ces avancées au niveau du droit du travail, donc le fait qu'on ait des contrats de travail, ça pourrait se payer en termes de postes, parce que l'interligne du truc, c'est que ça va quand même être plus compliqué maintenant que les contrats sont moins flexibles d'avoir du planning. Donc on va voir comment ça va se passer au niveau de la maquette de cours. Moi, j'ai un petit peu peur qu'à la rentrée prochaine, on nous explique que tel poste a sauté sur tel TD parce que maintenant qu'on doit avoir les contrats avant, c'est plus compliqué. Enfin, ça, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais j'ai un peu peur de ça. Et puis alors, sur la question des personnels administratifs, ce qui a été évoqué, c'est clairement qu'il y a une contractualisation, c'est-à-dire que vous puissiez être payé au mois, qu'en fait, grosso modo, il y a un statut de vacataire contractuel qui soit l'équivalent d'un CDD et qui permette d'être payé en temps et en heure en mois, de pouvoir après assister à Pôle emploi du fait qu'on a travaillé, que ça vienne avec une fiche de paye à la fin du mois, que ça soit complètement mensualisé. Et ça, il nous a expliqué que pour l'instant, c'était pas possible parce qu'on pouvait pas faire évoluer tous les contrats en même temps. On n'a pas très bien compris. Enfin, moi, c'est rentré dans des détails un petit peu techniques. Il nous a refait tous les types de contrats pour nous expliquer ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Alors, manifestement, pour les vacataires des services administratifs, c'est trop nombreux, ça les arrange pas du tout. Donc, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être possible. Moi, la façon dont je vois ça, c'est que, en fait, il va falloir continuer à animer ce collectif de vacataires et à le faire vivre. Alors, refoutre la pression régulièrement pour s'assurer d'un qu'ils ont tenu les promesses sur lesquelles ils sont engagés au niveau des enseignants. Et de deux, pour arracher cette contractualisation des vacataires dans les services administratifs, parce que moi je sais pas, mais j'ai pris ça comme une fin de non-recevoir des revendications basiques sur lesquelles tout le monde était à peu près d'accord. Effectivement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de reconduire les actions du type de celles qu'on a fait ce matin, éventuellement de se mettre d'accord à l'intérieur des gens qui sont mobilisés pour formaliser un peu ce qui vous inquiétait aujourd'hui, c'est les questions de délégation, de faire une plateforme, d'intégrer les revendications des administratifs à la plateforme commune des vacataires pour que chacun puisse se sentir libre de s'associer à la démarche sans s'exposer à être stigmatisé soit sur le lieu de travail, soit vis-à-vis de l'administration, soit vis-à-vis de la hiérarchie, et qu'on puisse à peu près arriver à défendre cette question de la contractualisation ensemble et de continuer à faire tourner les vacataires, parce que moi, du point de vue des vacataires enseignants, l'histoire n'est pas réglée. on va peut-être accéder à des meilleures conditions de contrat, mais les conditions de travail risquent pas de s'améliorer du jour au lendemain. Vraiment, levons le petit doigt, parce qu'on sait très bien que la réduction des budgets, elle va continuer, qu'on va continuer à tourner avec des TD qui sont dans des conditions d'enseignement et de sécurité, parce que voilà, le nombre fait qu'il y a beaucoup trop d'étudiants par TD qui seront pourris, et qu'on va continuer à revendiquer sur pour toutes les questions matérielles et morales qui font que ces contrats sont des contrats bidons et des contrats inadmissibles.
Ces questions, elles sont aussi liées à la répression au sein de l'Université Lyon 2 depuis plusieurs années. Encore, lundi 20 octobre, deux étudiants passaient devant la commission de discipline et risquaient une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion pour avoir participé à des comités de mobilisation au cours de l'année 2013-2014.
It's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
C'est le troisième appel qui a été fait sur Lyon concernant la mort de Rémi qui a été tué par la police. Je pense que tout le monde connaît ça dans le Testet. Du coup, il y a eu une ampleur nationale il y a eu une mobilisation nationale d'ampleur relative, mais quand même. Et donc, du coup, à Lyon, là, on se retrouve à se réunir pour la troisième fois pour dire que c'est pas possible que cette mort, elle reste impunie, que c'est pas possible que la police continue à tuer comme ça, et voire même plus généralement, en fait, qu'on veut plus de la police dans nos vies. On est place du Pont, une place un peu historique à Lyon, parce que grand quartier d'immigration qui, depuis pas mal d'années, se fait complètement restructurer, en mode on vire tout le monde, les insalubres, les infâmes, les clodos, les roumains, machin. Donc ils ont bien réussi leur bordel avec un super beau commissariat qui est pas très loin, avec des grands axes nettoyés, avec plein de caméras, avec des barrières pour que les gens ne puissent pas s'y poser. Et aujourd'hui, donc la police sent bien dans son élément, puisque tout est quadrillé, toutes les rues sont quadrillées, sont soit en civil cachés derrière des rues, soit avec des gros fourgons, des grilles anti-émeutes. Donc on sait qu'à Lyon c'est une ville sécuritaire, on en a la preuve aujourd'hui.
Il y a les CRS à droite en gros, là tout droit aussi.
CRS à droite, ouais, là-bas t'as toute une rangée de fourgonnettes de CRS. Derrière la caisse d'épargne là, t'as une trentaine de baqueux. Ici, t'as également quelques véhicules de police. Je suis pas allé plus loin là-bas, mais il y a le commissariat, donc je suppose que ça doit être bloqué. Et il y a aussi quelques véhicules de police de ce côté. Donc ouais, on est encerclé.
Ma fac, il y avait des flyers qui sont passés et tout, donc on nous a dit de venir.
Vous en pensez quoi, vous, du traitement qui a été fait par la presse de toute cette histoire, des manifestations qui ont eu lieu?
On a vraiment abordé la chose de manière vraiment basée sur les débordements, etc. À un moment, il y a eu un mort, parce qu'il y a eu sans doute une violence côté policier. Comment derrière on peut critiquer qu'il y ait la violence en réponse?
Moi je pense qu'on parle surtout des manifs où justement il y a eu des débordements et moins de celles pacifiques. Et c'est dommage.
Et je pense qu'ils devraient quand même mieux traiter l'information de manière générale, hein. Enfin, c'est un point de vue, mais actuellement, par rapport à divers sujets, hein, c'est pas forcément par rapport à ça, mais ils retiennent vraiment ce qu'ils veulent et ils perdent un petit peu ce souci d'information, d'être au plus près de la vérité, et on devrait retrouver ça Et voilà, je trouve que c'est bien qu'on s'indigne, hein, donc indignons-nous. Moi, je vais tenter Sciences Po, et si ça marche pas, j'irai en droit. Et après, j'aimerais bien faire du journalisme, justement.
Le but de ce rassemblement, pour vous, c'est quoi?
Bah, c'est bien sûr déjà de faire entendre la voix de l'écologie, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui manifestent pour les causes écologiques, c'est pas assez entendu dans la société. Puis aussi, bien sûr, c'est intolérable que sur une manifestation il y a un mort comme ça, donc il faut manifester contre voilà, les violences policières. Peut-être que par exemple ça devrait remettre en cause l'utilisation de grenades. Je vois pas en quoi autant des armes défensives comme un bouclier, un casque, c'est légitime peut-être que les policiers en possèdent, mais des grenades c'est pas... Je trouve pas ça justifiable.
Je savais même pas que c'était... Je trouve ça inadmissible que ça soit autorisé, même.
Ouais. C'est vrai qu'ils se... Enfin, ils sont... Je pense qu'ils sont quand même trop en toute puissance.
Vous êtes au courant de ce qui s'est passé ces derniers jours?
Quoi donc? Le petit jeune qui a été tué? Bah oui, forcément. Forcément. Vous êtes au courant qu'il y a un flic qui est mort aujourd'hui aussi?
Où ça?
À Vénissieux.
Un policier qui est mort?
Oui, absolument.
À cause de quoi?
Eh ben, une poursuite, quoi. Il faisait dans le cadre de son travail. Il y en a un qui est mort également. C'est des deux côtés, la violence. On vit dans un système violent. Les gouvernements sont violents. Comment voulez-vous que la populace ne soit pas violente? Tout simplement.
Oui, mais un flic, il est armé, alors que quelqu'un en face, il l'est pas.
Heureusement qu'ils sont armés. Comment voulez-vous faire sinon? Heureusement qu'ils sont armés. Et même armés, regardez ce qui se passe. Voilà, donc...
Mais vous pensez du coup qu'il ne faut pas se défendre, qu'il ne faut pas manifester?
Le film, je veux pas ma tête. Quoi,
non. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas manifester?
Mais bien évidemment que si, ça c'est clair qu'il faut manifester contre les violences en règle générale. On vit dans un système, dans une société qui est de plus en plus violente. Et ça, il faut voir au niveau national, en haut, c'est pas chez nous. Nous, on récolte cette violence. Voyez bien les quartiers, comment ils deviennent violents, insécurisés. Et la police, bien sûr, ils en font de trop. C'est plus des flics de toute façon, c'est Starkey et Hutch maintenant. C'est plus des flics. Ils ne serait-ce que pour un contrôle banal, ils sont 4-5 pour vous demander une pièce d'identité. C'est normal. La violence, il y a de la violence en face parce que les flics sont violents. Enfin, c'est bien dommage, tout simplement, d'en arriver à ça. Parce que si le peuple était concerté pour les gros chantiers, ça n'arriverait pas. J'en veux même pas la police, moi. C'est ministre de l'Intérieur, le Hollande et compagnie. C'est surtout ces gens-là. Hollande ou un autre, hein, de toute façon. Aujourd'hui, c'est Hollande, demain, ça sera un autre.
Qui arrive là.
Je n'ai pas tout entendu. Quel est le fait générateur de tout ce déploiement là, de police là?
C'est l'assassinat de Rémi Fraise.
Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Alors il y a des gens donc, qui protestent très concrètement.
Ouais, d'accord. On ne peut pas parler dans les médias.
D'accord.
Et voilà, c'était un petit retour sur la manif qui a eu lieu hier soir à partir de 18h place du Pont, qui s'est un peu poursuivie après place Saint-Louis. Faut savoir quand même que suite à cette manif, il y a eu 16 interpellés vers la place Saint-Louis et 2 interpellés place du Pont. Aujourd'hui, on sait pas trop encore ce qu'il en est, on sait pas s'ils sont sortis du comico ou pas. Enfin, peut-être il y a des gens qui savent, mais on sait pas. Et ils ont surtout des chefs d'inculpation assez graves, dont incendie volontaire. Et voilà, du coup, affaire à suivre et surtout continuer la mobilisation autour des violences policières.
Et maintenant, on va aller du coup du côté de Paris et avec du coup l'affaire de Rémi Fraisse. Hier, donc le jeudi 6 novembre, il y a eu une vingtaine de lycées qui ont été bloqués. Les lycéens se sont ont manifesté contre les violences policières et en même temps rendaient hommage du coup à Rémi Fraisse qui, petit rappel, est un jeune manifestant tué par une grenade sur le chantier du barrage de Sivens.
Voilà, alors après ce petit détour par Paris, on va revenir dans notre région, en Rhône-Alpes, et on va parler d'un projet d'aménagement. C'est dans l'air du temps, les projets d'aménagement. Projet d'aménagement en Isère, projet de Center Park.
Oui, alors depuis 7 ans, il y a eu un projet qui menace le bois des Avenières dans la commune de Roybon, qui est donc en Isère. En fait, c'est le groupe Pierre et Vacances qui souhaite construire un Center Park. Alors juste un Center Park, en gros, c'est une espèce de chaîne de complexes qui propose aux touristes des séjours de détente en leur proposant des tas de services luxueux.
Mais c'est formidable,
voilà.
Ça.
Ah,
alors,
tout à fait.
Pierre et Vacances, je suis sûr qu'ils doivent dire qu'ils vont créer de l'emploi avec ça, non ?
Oui, tout à fait. Alors juste avant, je voulais rajouter également qu'il y a 200 hectares de forêt et le défrichement de plus de 90 hectares qui serait nécessaire. Pour avoir un peu une vue, se représenter la chose, ça représente à peu près 123 stades de foot.
C'est gigantesque.
C'est énormissime.
Et alors, est-ce que ça crée de l'emploi vraiment ou pas du tout ?
Ils veulent faire croire, mais quand on voit un peu plus près, les chiffres annoncés sont assez modérés. En fait, il y a un très grand nombre des emplois qui sont à temps partiel, c'est-à-dire on peut calculer à peu près 10 heures par semaine. Et en ce qui concerne du coup les emplois à temps complet, en fait, il y a une amplitude des horaires de certains postes qui est difficilement du coup conciliable avec une vie privée normale. Du coup,
d'accord.
C'est assez précaire comme
des emplois précaires.
Voilà.
Mais est-ce que ça pourrait pas quand même développer l'économie locale ? Je vous trouve très pessimiste sur le sujet.
Excusez-moi. Disons que par rapport au Center Park qui existe, si on se base vraiment sur eux, justement. Tout leur programme est fait sur le fait que la clientèle doit... ils proposent à la clientèle de vivre en autarcie puisqu'ils proposent des services qui sont déjà tout sur place. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils vantent dans leur publication. Donc,
le client ne sortira pas du Center Park. Donc, il consommera tout dans le Center
Il n'aura
pas
le droit, non ?
Il n'aura pas le droit.
On lui proposera des choses pour l'interdire.
Et s'il sort, il ne peut plus rentrer. Il n'a plus son badge ou son ticket. Enfin, il marche plus.
S'il ne se lave pas les mains, si je pense qu'il a encore son tampon qu'on l'a mis sur la main, s'il pourra peut-être rentrer. Mais dans ce cas-là, il faut...
Alors, ça a l'air un peu opaque, ce projet Center Park isérois. Quelles sont véritablement les zones d'ombre de ce projet ?
Alors, les zones d'ombre, vraiment... Alors... Déjà, il y a par rapport aux locaux, déjà les gens qui habitent sur place, il y a vraiment un réel impact au quotidien. Déjà, par exemple, tout ce qui est pollution sonore, qui est due à toute la circulation sur les routes, les structures en elles-mêmes, qui quand même devraient accueillir plus de 5600 résidents, vous vous rendez compte ?
Plus les travaux, aussi en termes de pollution, ça doit...
Ah oui, mais ça c'est une fois que ça a été construit, c'est oui. Mais après oui, il y a tous les travaux avant. Et puis une pollution visuelle également, parce qu'une telle infrastructure, vous devinez bien que ça se cache difficilement.
Donc, à part si on a des grands arbres autour.
Peut-être. Ouais, mais vu qu'ils les auront tous coupés, il n'y aura pas moyen quoi. Et surtout, parce que on va venir sur la question de l'écologie. C'est surtout que ce projet représente la destruction et la privatisation de centaines d'hectares de forêt. Le bois des Avenières, en fait, où serait implanté du coup le projet, enfin le Center Park, est appelé le poumon vert de la région. J'aime beaucoup cette expression, je trouve ça vraiment symbolique. Et donc ce site est à peu près à 86% en zone humide et à l'abri de nombreuses espèces végétales et animales. Et du coup, elle joue vraiment un rôle important dans la régulation des ressources de l'eau, l'épuration, la prévention des crues. Et puis, du coup, détruire cette forêt, elle peut avoir que des enjeux environnementaux, économiques et sociaux vraiment importants.
Ça ressemble un peu au testé, tout ça, zone humide, qui permet d'éviter les inondations si on la laisse telle quelle. Ça lui ressemble beaucoup. Pardon, excuse-moi, continue.
Oui, et donc... Donc voilà, et puis du coup, bien sûr, en détruisant une telle zone de forêt, il y aurait forcément aussi des effets sur toutes les parties qui ne vont pas être déforestées, mais du coup, sur toute la vie, la biodiversité. Et sans parler du coup du gaspillage de l'eau et de l'énergie, on en vient. Parce qu'au cœur de Center Park, il y a ce qu'on appelle l'Aquamundo. En gros, c'est un lieu qui doit être constamment maintenu à 29 degrés, quelles que soient les saisons. Et plus encore, l'eau qui est utilisée pour tous ces immenses complexes aquatiques et bien sûr le précieux confort des clients du coup. Bref, ce projet, comme on l'a tous compris, est une aberration.
Oui, apparemment. Et y a-t-il véritablement eu une enquête de fond de la part des pouvoirs publics ?
Ah mais bien sûr ! Ah non, mais bien sûr, il y a eu une enquête publique, il y a eu 3 commissaires enquêteurs qui ont donné d'ailleurs un avis négatif. Il y a même le Comité national de la protection de la nature, qui a été quand même missionné par le ministère de l'Environnement, qui... eux n'étaient pas favorables, enfin ils n'étaient pas non plus favorables, mais ils se sont assis dessus vulgairement.
Bref, voilà. Affaire à suivre.
Affaire à suivre, donc ouais. En gros, prochaine ZAD là-bas quoi.
Prochaine ZAD là-bas, et puis on vous donne des nouvelles dans les prochains Canu Info du vendredi.
Très prochainement.
On va passer maintenant, pour terminer cette émission, il nous reste peu de temps, donc on va le faire rapidement, aux événements qui ont eu lieu au Mexique en septembre de cette année. Alors, petit retour en arrière, le 26 septembre de cette année, il y a eu un massacre de masse dans une ville à 200 km au sud de Mexico. Des étudiants qui préparaient l'école normale, l'équivalent de l'école pour devenir instituteur au Mexique, qui venaient ces étudiants venaient essentiellement des campagnes de cet état, l'état du Guerrero, venaient donc dans cette ville. Alors le nom de la ville c'est Iguala, donc comme je le disais, à 200 km au sud de Mexico. Et ils sont venus le mauvais jour. Alors pourquoi ils venaient dans la ville d'Iguala ? Ils venaient récolter des fonds pour organiser une manifestation en hommage à des étudiants qui avaient été justement eux aussi massacrés. Mais alors ce massacre, c'était celui de 1968, massacré par le pouvoir. Donc ils voulaient manifester à Mexico, récolter des fonds pour cette manifestation. Et ils sont venus à Iguala, la capitale de la région du Guerrero. Or, le jour où ils sont venus à Iguala, le 26 septembre 2014, le maire et sa femme organisaient sur la place publique et dans les bâtiments attenants un grand meeting politique qui réunissait 4000 personnes, les notables de la région, parce que la femme du maire veut se présenter pour les élections municipales de 2015. Or, l'arrivée de ces jeunes étudiants, ça se met un petit peu le trouble auprès des notables qu'elle voulait voir. Et qu'elle voulait convaincre également. Donc elle a demandé à la police municipale de son mari, puisque elle était la femme du maire, d'intervenir. La police municipale est intervenue, et elle est intervenue plutôt violemment, puisqu'elle a tiré pendant 40 minutes sur les jeunes manifestants. Alors ces tirs ont fait d'emblée 6 morts. Et puis, la police a arrêté les survivants. Ils étaient une soixantaine de survivants. Elle les a arrêtés. Une quinzaine d'entre eux a réussi à s'échapper. Et puis, les autres, donc une quarantaine de manifestants, étudiants, jeunes étudiants qui restaient entre les griffes de la police, ont disparu. Ont complètement disparu. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement où ils sont. Alors, il y a eu de fortes suppositions, parce que après cette affaire, le maire et sa femme ont eux aussi disparu. Ils sont partis, ils se sont carapatés, et ils ont été retrouvés, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, ils ont été retrouvés le 4 novembre, donc cette semaine, par la police fédérale du Mexique. Ils ont été retrouvés et on les soupçonne d'avoir organisé la disparition de ces étudiants et d'avoir fait en sorte qu'ils soient liquidés. Alors, ils n'ont pas été liquidés directement par la police municipale mexicaine, de cette ville d'Iguala, mais la police municipale les aurait donné à un groupe de narcotrafiquants avec qui ils sont plutôt main dans la main dans cette localité. Ce groupe de narcotrafiquants s'appelle Guerreros Unidos. Ils sont très connus pour faire disparaître, outre le trafic de drogue, ils sont très connus pour faire disparaître leurs ennemis, en général d'autres narcotrafiquants. Et du coup, une enquête a été menée. On a retrouvé des fosses qui contiennent des corps. On a retrouvé aujourd'hui 38 corps qui ne sont pas encore clairement identifiés, mais il y a fort à parier, donc pour résumer l'affaire, que la police municipale et la municipalité travaillaient main dans la main avec les narcotrafiquants pour faire disparaître ces militants. Voilà. Alors parmi les corps et, qui ont été retrouvés, et c'est aussi pour ça que beaucoup sont difficilement reconnaissables, beaucoup étaient calcinés, démembrés, voire certains dissous dans l'acide. Alors, quelle conclusion là-dessus? Ben peut-être à l'échelle nationale, il faut savoir que depuis 2013, le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, tout un programme, ça, Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui est au Mexique depuis les années 20, est revenu au pouvoir. Et justement, Peña Nieto, donc c'est le nom de l'actuel président, avait axé toute sa communication pour faire en sorte qu'on ne parle pas ou pas, qu'on parle moins des violences au Mexique. Du coup, là, sur ce coup, c'est complètement loupé. Et ça montre une nouvelle fois que les narcotrafiquants sont extrêmement puissants au Mexique et qu'ils travaillent très souvent main dans la main, soit avec les autorités fédérales, c'était le cas à l'époque de Calderón, puisque l'armée avait été accusée d'avoir participé à des massacres de masse, là cette fois-ci avec une police municipale. Voilà, agenda donc.
Et du maintenant. Coup, oui, pour finir très rapidement ce qu'il y a eu info, puisqu'il est bientôt 20h, on vous fait un petit tour d'agenda. On vous dit par exemple que vous pouvez aller à la Griffe, rue Sébastien Griffe, du coup dans le 7e, demain à 15h, pour rencontrer des militants No Border qui sont basés à Tanger, et du coup pouvoir parler du No Border Maroc, de Calais à Tanger, solidarité avec les sans-papiers. Je crois qu'il se passe aussi quelque chose le soir à Saint-Étienne.
Saint-Étienne, un ami disait Saint-Étienne, c'est un petit peu la Nouvelle-Orléans de la France. Et à Saint-Étienne, donc, il y a demain un concert de soutien au LIALI. Le LIALI, c'est un projet de lycée autogéré à Lyon, concert de soutien à la Gueule Noire, avec des